Radio Okapi.
Le vice-ministre de la Justice et contentieux international met en garde tous ceux qui insécurisent les Kinois ces derniers temps, notamment les braqueurs des maisons commerciales et autres services. Samuel Mbemba demande aux magistrats de durcir les sanctions contre tous ces criminels. Pour les protéger contre la rougeole, plus de 33 000 enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés au mois de mai à Salamabila au Maniema, une initiative de Médecins sans frontières MSF après la vaccination en février de plus de 40 000 enfants de Kasongo. Claudine Biamungu est l'invitée de ce journal. La coordinatrice de l'organisation féminine Hope and Peace va revenir sur le projet sur la paix et la cohésion sociale au Sud Kivu. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international lance une mise en garde contre tous ceux qui traquent les paisibles citoyens à Kinshasa. Samuel Mbemba l'a dit ce lundi au cours d'une communication aux médias. Il encourage ainsi les magistrats à durcir les sanctions contre tous ces braqueurs des maisons commerciales et autres services qui tomberont dans le filet des services de sécurité. Samuel Mbemba demande également à la population kinoise de dénoncer tout mouvement suspect pour démasquer ces criminels. Ces propos sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proche. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement et de se souvenir qu'ils sont pères de famille, époux ou épouses, ou tout simplement ils ont des familles qui voudraient les voir en liberté. Car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère. La ville-province de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs.
Le dernier cas de cambriolage connu remonte à samedi dernier où trois hommes armés ont ouvert le feu sur un pick-up transportant un ressortissant chinois et son chauffeur près d'une concession industrielle sur le boulevard Lumumba à Limété. Selon des sources concordantes, le chauffeur congolais touché par balle est décédé sur le coup. Ces malfrats ont pris la fuite avec un sac d'argent. En Ituri, les FARDC appuyés par des policiers ont perquisitionné dimanche le site de Niamoussassi à la plaine du lac Albert où sont hébergés environ 8000 déplacés. Au terme de cette opération, 5 suspects ont été arrêtés et transférés à Bounia pour des enquêtes. Selon les autorités territoriales, ce site est soupçonné d'héberger des miliciens qui déstabilisent la région. Isaac Raymond.
Une dizaine de véhicules transportant des militaires des FARDC et des policiers venus de Bounia sont descendus samedi soir à Niamoussassi, à la plaine du lac Albert, à 60 km à l'est de Bounia, dans les territoires de Djougou. Ils ont été appuyés par d'autres militaires en provenance de Kassigny et Tchoumia, des entités proches. Ils ont quadrillé les sites et procédé aux fouilles à partir de minuit 30 jusqu'à 9h le dimanche. Ils se sont introduits dans chaque abri pour chercher des armes et d'autres effets militaires. Selon des sources concordantes, aucun indice militaire n'a été retrouvé dans les sites. Cependant, 5 personnes soupçonnées d'être de connivence avec les groupes armés ont été appréhendées et transférées à Bounia pour des enquêtes. Cette perquisition est faite à la demande du comité territorial de sécurité qui soupçonnait la présence de certains miliciens dans ces sites. Les gestionnaires des sites se disent satisfaits de cette opération qui permet de mettre fin aux soupçons et allégations qui pesaient sur ces déplacés. Cependant, ces derniers déplorent le dérapage de certains militaires qui auraient emporté des biens de la population, téléphone et argent entre autres. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, le Conseil urbain de la jeunesse de Bukavu adresse une lettre ouverte au gouvernement, au Parlement et à la notabilité de la RDC. Il s'agit d'un appel à la prise de conscience et à l'éveil patriotique sur la situation sécuritaire et socio-économique qui prévaut actuellement dans la province du Sud Kivu, à Bukavu en particulier. Le condensé de cette lettre ouverte est rendu ici par Blaise Shindani.
Dans leur phrase introductive, les trois signataires de la lettre ouverte au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée nationale et à tous les notables du Sud Kivu mettent un accent particulier sur les silences qu'ils qualifient d'un crime face à l'occupation prolongée de la ville de Bukavu et d'autres entités par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par Kigali. Le comité directeur du comité urbain de la jeunesse de Bukavu appelle à une prise de conscience et à un éveil patriotique sur la situation sécuritaire et socio-économique qui prévaut actuellement en province du Sud Kivu et dans la ville de Bukavu en particulier. Les jeunes de Bukavu en particulier et la population du Sud Kivu en général vivent dans une précarité sans nom, poursuit la lettre ouverte aux autorités. Ils citent notamment le pillage observé à la veille de la prise de la ville de Bukavu par le mouvement AFC M23 et la fermeture des banques et les salaires qui n'arrivent pas depuis 5 mois plongent la population dans les chaos. Le Conseil urbain de la jeunesse de Bukavu conclut sa lettre ouverte en recommandant aux notables du Sud Kivu de montrer leur vraie face ici et maintenant, car il est grand temps d'agir.
Et comme pour illustrer la situation que dénoncent ces jeunes de Bukavu, l'usine à thé de l'Emera, dans le territoire de Calais, est condamnée à la fermeture à la suite du pillage systématique de son matériel de production. Toutes les machines appartenant à cette usine ont été emportées par des hommes de l'AFC M23 vers une destination inconnue. Le pillage s'est produit à l'issue des violents combats opposant ces rebelles au Azalendo le vendredi dernier. Quelle est l'importance socio-économique de cette usine dans la région nationale?
L'usine à thé de l'Emera constitue le poumon économique du territoire de Calais pour ses diverses potentialités. Elle offre des opportunités d'embauche aux populations environnantes des territoires de Calais et de Kabare et Kabamba. Environ une centaine de ménages pouvaient espérer percevoir un salaire mensuel grâce aux travaux exercés par l'un ou l'autre membre de la famille. Cette usine fut montée à l'époque coloniale pour transformer les feuilles de théier en produits finis que l'on pouvait consommer localement. Mais le thé de première qualité produite à l'Emera a été exporté par la société qui porte le même nom pour amener des devises dans la province du Sud Kivu et dans les territoires de Calais en particulier. La société disposait des engins spécialisés à labourer la terre pour assurer la culture du thé. Une usine ultra moderne dotée des équipements dignes d'une industrie de production avait été installée à l'Emera au milieu de la plantation pour transformer le feuille en thé de boisson. L'usine a brusquement arrêté de fonctionner avec l'avènement de la guerre du M23 qui a paralysé les territoires de Calais depuis le mois de janvier de l'année en cours. Vendredi passé, les rebelles ont repoussé les Wazalendo et se sont livrés au pillage systématique de ces matériels. L'Emera était l'une des rares usines de transformation sur laquelle la province du Sud Kivu pouvait encore compter.
Le ministère congolais des Affaires étrangères s'exprime sur les différents processus de paix en cours et la CEAC. Dans un communiqué de presse publié hier dimanche dans la soirée, le ministère précise que la RDC réaffirme son engagement dans le processus de paix sous l'égide de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. La RDC rappelle que la crise à l'est de son territoire et le différend avec le Rwanda sont alimentés entre autres par des actes d'agression dénoncés notamment par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution mentionne le communiqué, exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises. D'autres précisions avec vous, Billy Van Lutumba.
Dans ce communiqué, la République démocratique du Congo exprime sa préoccupation face à une tendance inquiétante, celle qui consiste à se retirer d'un traité ou bloquer un processus dès qu'une exigence de redevabilité est évoquée. Cette posture trop longtemps tolérée, déplore le ministère, amène à des accords sans redevabilité, donc sans durabilité. Participer à un processus de paix ne saurait signifier effacement du passé ni immunité pour des crimes graves. La RDC, à travers ce communiqué, alerte sur les comportements qui sapent la stabilité régionale et le respect intégral des traités et des principes du multilatéralisme. Le ministère indique que les actes d'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda violent l'article 34 du traité révisé de la CEAC qui interdit tout recours à la force entre États membres. L'on ne saurait donc invoquer certains droits tout en bafouant les obligations fondamentales du même traité et les droits d'un autre État membre, désapprouve-t-il. Il rappelle qu'un instrument juridique s'applique dans son intégralité, sinon il perd toute sa portée. Face à toutes ces évocations, la RDC appelle à une vigilance renforcée face aux comportements qui affaiblissent les multilatéralismes et invite les institutions régionales et internationales à réaffirmer par des actes concrets leur attachement à la légalité, la responsabilité et à l'intégrité territoriale des États.
Plus de 33 000 enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole à Salamabila au sud de la province du Maniema au cours de la campagne de vaccination contre cette maladie menée par Médecins sans frontières MSF en mai dernier. Les autorités sanitaires locales et même la communauté saluent ces efforts, bien qu'il y ait encore des défis à relever. Avant le territoire de Salamabila, la campagne de vaccination contre la rougeole a aussi été organisée dans la zone de santé de Kasongo en février dernier. À cette occasion, MSF a pu faire vacciner plus de 40 000 enfants. Depuis Kindu, Florence Kizalunga.
Dans ses communiqués, MSF fait savoir que tout au long du mois de mai, les équipes de MSF en collaboration avec les autorités sanitaires locales ont été déployées dans 189 villages pour administrer gratuitement les vaccins contre la rougeole à plus de 33 000 enfants de 6 à 59 mois. Cette intervention qui a couvert 18 aires de santé a également inclus la supplémentation en vitamine A et les déparasitages afin de renforcer la santé de plus jeunes, déclare la chef de mission adjointe à MSF Maniema et Sud Kivu. Giulia Panseri ajoute que dans un contexte de besoins humanitaires croissants couplé avec les désengagements de plusieurs gouvernements en matière de solidarité internationale, le risque de voir les épidémies se multiplier est réel. Ainsi donc, MSF appelle tous les acteurs à œuvrer pour garantir la couverture vaccinale des populations affectées par la crise en RDC afin de protéger le plus vulnérable. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, les enseignants de la sous-division Masisi 7 dans le territoire de Masisi menacent d'aller en grève si leur salaire n'est pas payé. Ils réclament 5 mois de leur salaire. Selon eux, ils n'ont pas touché cet argent depuis le mois de janvier dernier jusqu'à ce jour. Ils mettent en cause Caritas, agent payeur, qui selon eux évoquerait des difficultés pour acheminer les fonds. Raison non fondée, disent ces enseignants. Ils en appellent à l'arbitrage du ministère de tutelle. Augustin Sabakaka, secrétaire permanent de la province éducationnelle Nord Kivu 3, explique le calvaire de ces enseignants dont certains sont séparés de leur famille à cause de la guerre.
Dès le mois de janvier jusqu'à nos jours, comprenez, vraiment ces enseignants traversent une vie difficile. Il y a beaucoup de problèmes qui touchent vraiment la vie des enseignants et presque tout le monde comme société. Donc, ils ont pris beaucoup de dettes suite à l'insécurité. Ces enseignants ne peuvent même jamais arriver dans les champs pour aller chercher quand même comment trouver le survivre. Ces enseignants sont en train de quémander, leurs familles sont en train d'être détruites, même leurs enfants pour aller même à l'école. C'est un problème. C'est ça le problème vraiment. Les enseignants vraiment sont en train de traverser. Ces enseignants vraiment souffrent beaucoup et les gens ne les écoutent pas. Comprenez que celui qui ne touche pas dès le mois de janvier a quel type de vie. C'est la raison pour laquelle ils viennent vraiment de décider pour ne plus encore retourner dans l'école. Quand tu as toujours resté silence, vraiment ces enseignants souffrent beaucoup. C'est la raison pour laquelle ces enseignants veulent quitter dans Caritas pour qu'ils soient entrés dans des banques.
Nous n'avons pas pu joindre Caritas pour avoir sa réaction. Au Kasaï oriental, l'abandon des nouveau-nés après leur naissance est devenu récurrent dans la commune de Bipemba en Mbujimayi. Le dernier cas en date est celui d'un nouveau-né trouvé mort samedi dernier dans le puits d'une toilette, quelques heures seulement après sa naissance. Le bourgmestre de la commune tape du poing sur la table. Elle dénonce ce quatrième acte enregistré dans son entité depuis le début de cette année. Irène Balaï va plus loin jusqu'à promettre des sanctions sévères aux parents des jeunes filles qui abandonnent leur nouveau-né après leur naissance. Irène Balaï, bourgmestre de la commune, a été jointe au téléphone par Esther Ndalafina.
Dans la commune de Bipemba, nous avons fait un constat amer que nous vous annonçons avec une profonde indignation. L'abandon des nouveaux-nés, des fois dans les toilettes, des fois dans les rues, des fois dans les brousses. En tout cas, on est au quatrième cas. Ça laisse à désirer et là, nous allons procéder aux sanctions pour tout coupable de ces actes de délinquance. Alors, nous faisons appel à tous les parents responsables de ces filles qui font ces choses de pouvoir veiller à leurs enfants parce que non seulement nous allons commencer à punir le filles-mère, mais nous allons procéder aussi à la punition des parents parce que ce sont eux les responsables directs de ces enfants. Alors là, au niveau de la commune, nous voulons que le parent nous aide. Veillez sur vos enfants. Les enfants qui naissent, les nouveau-nés qui naissent, ont vraiment droit à la vie et nous devons les respecter.
L'invité.
L'invité de ce journal s'appelle Claudine Biamongo Nanjushi, coordinatrice de l'organisation féminine Hope and Peace. Elle nous parle du projet sur la paix et la cohésion sociale au Sud Kivu. Jean Kassami l'a rencontré à l'occasion du lancement de son projet quinquennal samedi dernier à Bukavu. Suivez cet entretien.
Bonjour madame.
Bonjour.
Voudriez-vous nous parler brièvement de ce projet dénommé projet d'intégration de la paix et de la cohésion sociale au Sud Kivu?
Oui, c'est un projet que nous venons de lancer aujourd'hui. Ce sera un projet qui va être mis en œuvre au niveau du Sud Kivu, du Nord Kivu et d'Ituri. Mais aujourd'hui, nous avons lancé l'activité pour commencer avec un projet pilote au niveau de la ville de Bukavu où nous voulons la paix et la cohésion sociale au sein de la communauté.
Pourquoi avez-vous choisi Bukavu comme ville pilote?
En fait, nous avons choisi Bukavu comme ville pilote parce qu'actuellement, nous vivons des atrocités sans précédent. Aujourd'hui, il y a des justices populaires incontrôlées où on commence même à s'entremanger entre nous. Et donc, nous sentons l'urgence de parler de la paix et la cohésion sociale pour que nous puissions avoir un changement de comportement, afin que chaque couche de la population se sente à l'aise de vivre en cohabitation.
La quintessence du projet en question, c'est-à-dire sa durée de vie, quelle autre zone vous comptez atteindre?
En fait, nous avons un grand projet qui a accouché les petit projet que nous venons de lancer aujourd'hui. Nous avons un grand projet quinquennal qu'on appelle Programme d'éducation à la paix et à la cohésion sociale qui contient 5 programmes. Mais actuellement, nous avons lancé un des programmes qui va durer une année. Donc, nous avons lancé au mois de juin 2025 et ça va se terminer au mois de mai 2026.
Aujourd'hui, vous avez regroupé les chefs de quartier qu'on appelle cadre de base de la ville de Bukavu. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ces choix?
En fait, c'est un choix stratégique où nous nous disons que les changements doivent commencer par la tête. Et donc, pour nous, nous avons pris les chefs de quartier et les chefs d'avenir comme cadre de base et ambassadeurs de la paix qui doivent nous aider à aller prêcher de la paix jusqu'au fin fond. Nous avons aussi les cadres religieux qui ont été invités, qui seront aussi des ambassadeurs de la paix qu'on va utiliser pour que nous puissions espérer toucher toutes les couches de la population de Bukavu.
Le message de paix ne se prêche pas comme la parole d'évangile parce que ça nécessite de moyens. Est-ce que ceux-là que vous voulez faire cavalier avec disposent de moyens suffisants pour réussir leur mission?
Au fait, les consortiums que nous avons créés pour le projet ici est vraiment de fonds propres. Nous n'avons pas de financement, mais nous allons travailler avec les chefs de quartier qui sont aussi engagés dans la recherche de la paix. Et donc, le budget vient après, mais la paix et la cohésion sociale, c'est plus les changements de comportement. Et donc, pour nous, l'argent pourrait venir après et c'est là où nous allons solliciter même l'appui des différents partenaires, surtout les partenaires internationaux qui devaient accompagner ce projet pour que nous puissions espérer instaurer la paix au sein de la communauté. Et donc, les chefs de quartier, les chefs d'avenir seront comme des ambassadeurs bénévoles à la recherche de la paix parce qu'actuellement, la cohabitation n'arrive pas à bien se positionner, on n'arrive plus à cohabiter ensemble et la paix est toujours en deçà du moyen. Nous disons que les cadres de base seront notre moyen et canal pour faire arriver les messages de la paix et les changements. Parce que les cadres de base actuellement, ils ont la possibilité de toucher la population au travers les réseaux sociaux, surtout le groupe WhatsApp. Aujourd'hui, toutes les avenues, tout le quartier, ils sont regroupés en WhatsApp. Ils se regroupent aussi dans les salongo et il y a les jeunes qui se regroupent aussi au sein de leur quartier. Et donc, nous allons utiliser ces cadres de base pour se rassurer que les messages de paix arrive jusque dans nos familles.
Merci beaucoup.
Merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal mis en onde par Alain Goy et présenté par Noëlla Luzitu, le tout sous la coordination de Élisée Chikota Chivueta. Merci à tous de l'avoir suivi.